Nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Avant toute chose, avant même que nous nous tournions vers Dieu, il nous donne sa grâce, il nous offre sa paix, il nous a entourés de sa tendresse en Jésus-Christ. Alors accueillons ensemble la présence de notre Dieu avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français dans le petit livret « Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur ». Éternel, nous te rendons hommage car tu es notre Dieu. De génération en génération, tu es le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que depuis toujours nous pouvons remercier pour notre vie qui vient de toi et que tu bénis, pour nos âmes que tu gardes, pour nos pas que tu éclaires et pour tes miracles de tous les jours envers nous, à toute heure, le soir, le matin, à midi, Dieu de bonté, ta miséricorde pour nous ne s'achève jamais. Père éternel, tes grâces ne tarissent pas. Depuis notre origine et pour toujours, tu es notre joie. Alors je vous propose de poursuivre dans la louange avec le psaume 138 dans le psautier français. Que tout mon cœur soit dans mon chant. Les trois strophes de ce psaume 138. Alors bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de foi, d'espérance qu'est le culte. Bienvenue à vous qui êtes un habitué ou qui êtes de passage ou qui venez pour la première fois. Et bienvenue en particulier à Clément Lepory-Leur qui a demandé à recevoir le baptême parmi nous ce matin. Et puis bienvenue à ceux qui l'accompagnent, qui nous font donc l'amitié de venir ici parmi nous pour accompagner Clément. Mais voici ce que Jésus nous propose de vivre selon les paroles de l'Évangile. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu l'aimeras avec intelligence, nous dit Jésus-Christ. Et c'est là le premier, le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et avec ce psaume de David, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer sur ce chemin de l'amour. Écoute, Éternel, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, ô Éternel, que je cherche. Ne me cache pas ton visage. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu es et tu seras toujours mon secours, et ainsi ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, toi, mon Dieu, toi, mon salut. Même si père et mère nous abandonnaient, l'Éternel nous reçoit et nous garde. Montre-nous ton chemin, ô Éternel. Conduis-nous par des routes sûres, malgré le péché qui est tapis à notre porte. Ne nous livre pas à la merci de l'adversaire, mais j'en suis sûr. Je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère l'Éternel. Sois fort, prends courage, espère l'Éternel. Que chacun reçoive de nous, directement de la part de Dieu, l'assurance de sa bienveillance irréductible à notre égard. Que chacun reçoive de naître et de grandir par le Créateur de la vie. Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Alors c'est avec grande joie que nous accueillons Clément qui a demandé le baptême. Alors Clément, vous pouvez venir, vous avez dit quelques petits mots, vous avez cherché à vous instruire sur l'histoire du christianisme, vous avez cherché, vous êtes intéressé à différentes religions. Et c'est donc en connaissance de cause que finalement vous avez choisi le christianisme en particulier et puis que vous avez choisi le protestantisme. Désirant être baptisé depuis déjà quelques mois, quelques temps, vous avez cherché, vous avez trouvé l'oratoire, vous êtes venu au culte. Vous avez suivi le cycle d'initiation à la théologie sans que ce soit obligatoire parce que voilà, nous considérons qu'une personne qui désire être baptisée, eh bien, si elle se considère comme prête, et elle est prête, bien sûr, pour nous. Mais vous avez suivi ce cycle, et puis cela ne vous a pas dégoûté, et donc, vous voilà parmi nous ce matin. Merci pour ce courage, et merci donc pour ce geste de foi qui, pour nous aussi, est un appel à avancer sur notre route, pas après pas. Alors, vous demandez le baptême pour recevoir le signe du salut que Dieu donne en Jésus-Christ. Et vous manifestez aussi le désir par ce geste d'entrer dans cette grande famille des chrétiens, cette multitude qui, dans différentes églises, dans différents lieux de la planète, à différentes générations, à différents siècles, cherche Dieu, le Dieu unique, mais en écoutant la parole de Jésus-Christ. Ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous, en particulier Clément. Avant même que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous et rien ne vous privera de cet amour. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir, nous dit l'apôtre Paul. Dans la liberté que Dieu nous donne de rentrer ou de ne pas rentrer dans son alliance, aujourd'hui, Clément, vous répondez à cet amour en demandant le signe du baptême. À celui qui vous dit « Tu es mon fils bien-aimé », vous lui répondez « dans votre cœur depuis déjà quelque temps et aujourd'hui parmi nous, tu es mon Dieu et mon Père que j'ai dans les cieux. » Nous prions Dieu. Ô Éternel notre Dieu, tu nous as donné ton esprit de lumière et de vie. Tu l'as donné à Clément, cet esprit de lumière. Tu l'as accueilli dans ton alliance. Eh bien, que ce baptême soit le signe de ces dons que tu lui donnes et que tu veux renouveler pour lui jour après jour, de plus en plus. Qu'avec le Christ, il devienne jour après jour plus vivant et plus source de vie pour les autres, source de foi, d'espérance et d'amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre frère. Amen. Alors Clément, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Clément, Dieu vous bénit et vous garde. Il vous sanctifie, il vous accompagne sur la route qui est la vôtre. Il vous soutiendra quand vous en aurez besoin. Il vous réveillera quand vous somnolez. Il questionnera vos réponses et il répondra à votre questionnement. Oui, Dieu vous conduira sur le chemin de la vie, dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. En réponse à cet amour de Dieu, voulez-vous confesser la foi chrétienne qui rassemble tous les chrétiens ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors c'est la confession de foi minimale qui, je crois vraiment, on peut dire, rassemble tous les chrétiens. Oui, cela veut dire que Jésus-Christ, d'une façon ou d'une autre, a une importance décisive sur vous, pour votre vie. Mais il est bon de préciser un peu, de réfléchir, de creuser ce qui pour nous est le cœur de cette foi. Et donc vous avez préparé une confession de foi personnelle qui sera notre confession de foi pour nous ce matin. Et donc je vous propose de vous lever pour vous unir du cœur à cette déclaration de foi chrétienne.
Je crois en Dieu, source créateur de vie, qui nous accompagne de sa bienveillance et de sa lumière. Je crois en Jésus-Christ, en sa parole et sa sagesse, qui à travers les évangiles nous montre la voie à suivre. Je crois en l'Esprit Saint, souffle d'espérance, qui manifeste la puissance de Dieu invisible et rassurant.
Un grand merci, Clément. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Nous proposons des engagements pour que le baptême soit plus marqué comme un point de départ que comme le but ultime de notre cheminement, heureusement. Et donc, Clément, est-ce que vous désirez donc mettre votre confiance en Jésus-Christ, car il est notre Sauveur, et voulez-vous chercher à le suivre, car il est notre Seigneur? Voulez-vous, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer d'aimer Dieu de tout votre être et d'aimer votre prochain comme vous-même?
Oui, que Dieu me soit en aide.
Eh bien, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Clément, nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église universelle, de l'Église chrétienne, qui ne connaît ni frontières entre les institutions, ni entre les classes sociales, ni entre les peuples, ni entre les générations. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'elle vous accorde ses dons et qu'elle vous les renouvelle jour après jour. Nous prions Dieu. Ô notre Père, nous te remercions pour Clément que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui dans cette famille. Grande est notre joie, et plus grande encore, nous le savons, est ta joie dans le ciel pour ce moment de foi, de confiance en toi. Bénis-le pleinement, ô Éternel. Bénis tous ceux qui sont autour de lui, ceux qui l'aiment, ceux qui l'accompagnent, ceux qui espèrent en lui. Et puis, aide-nous à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, saisir ce qu'il peut nous apporter et puis être nous-mêmes témoins auprès de ceux qui ont besoin de nous, de quelque chose de fort et de vrai qui les aide à avancer. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Grand merci, Clément. Le chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu est entièrement formé par un violent discours de Jésus contre ses collègues théologiens, pharisiens et scribes hypocrites. C'est une incroyable tirade digne de Cyrano et même de Cyrano joué par Gérard Depardieu. Matthieu nous offre donc un chapitre entier de paroles dures. Alors il faut que ce soit vraiment important dans l'Évangile car des messages essentiels comme l'amour des ennemis, comme la parabole du bon berger qui va rechercher la plus perdue des perdues, des brebis perdues, n'occupent que quelques versets dans cet évangile. Et là, nous avons tout un chapitre d'injures diverses pour les autres théologiens. Alors cherchons donc la bonne nouvelle du salut de Dieu, la bonne nouvelle du salut qui est donné en Jésus-Christ pour le monde et pour nous dans cette page très dure de l'Évangile selon Matthieu. Courage. Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des humains, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les remuer du petit doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, et ainsi, ils élargissent exagérément leurs phylactères, ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment être appelés par les hommes « rabbi ». Mais vous ne vous faites pas appeler « rabbi » car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler « directeur », »,« chef » car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous, jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Et celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Conducteurs aveugles, qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors que c'est en dedans que vous êtes plein de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous ornez les tombeaux des justes, et vous dites, « Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. » Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment fuirez-vous la condamnation de la Géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, je vous envoie des sages et des scribes. Vous tuerez les uns, vous crucifierez les autres, vous flagellerez les derniers dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. C'est alors que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia. Vous l'avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Ô Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter dans le petit recueil « Louange et prière » le numéro 254 « Ô Seigneur, ta voix m'appelle » les strophes 1, 4 et 5. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, qui libère nos conversations, qui nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde et que les yeux soudain levés vers notre monde, nous puissions entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps, de notre monde et des autres autour de nous. Jésus agresse donc vivement les pharisiens au chapitre 23. Au chapitre 12 du même livre, nous le voyons agir bien différemment. Alors qu'il cherche à le faire mourir, Jésus s'éloigne sans un mot, nous dit le texte, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. » Il annoncera la justice aux nations, il ne contestera pas, il ne criera pas, Personne n'entendra sa voix dans la rue, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront ainsi en son nom. Alors comment concilier ces deux façons d'être de Jésus dans le même évangile ? Eh bien d'abord, je crois qu'on peut remarquer qu'il est impossible donc de faire une loi générale qui serait valable en toutes circonstances. Comment réagir ? Comme le dit saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges l'autre en face de toi, corrige-le par amour. » Est au fond de toi la racine de l'amour, et de cette racine, il ne pourra sortir que du bien. Alors ce n'est pas du relativisme, comme si nous pouvions faire ce qui nous passe par la tête et que ça n'avait aucune importance. Au contraire, cette complexité à déterminer quel est l'acte juste à un moment donné de notre existence, c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire délicate, c'est une responsabilité exigeante. Il n'y a que des cas particuliers et nous ne pouvons donc pas nous réfugier derrière des règles fixes pour chercher ce que nous devrions faire ou ne pas faire. Pour Jésus, face à l'opposition qu'il rencontre, il y a un moment où il faut se taire et partir sans rien répondre, et puis il y a un temps pour dénoncer fortement ce qui ne va pas. Et c'est ça finalement le tort des scribes et des pharisiens dénoncé ici par Jésus dans la première partie. Ils se sont assis sur la chaire de Moïse et ils lient de pesants fardeaux, de règles, de doctrines sur les épaules des gens et ils prétendent penser ainsi à la place des autres. Tout est prévu, ne vous inquiétez de rien. Jésus nous dit « ne vous faites pas avoir par cela, ils parlent et ils ne font pas ce qu'ils disent ». Alors ce n'est pas faute de vouloir bien faire, parce que dans la suite du discours, Jésus parle de leur engagement extrême à ses scribes et ses pharisiens, allant jusqu'à payer la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, ce qui a l'air d'être complètement facultatif, multipliant les actes religieux jusqu'aux plus petites choses de la vie quotidienne. Mais avec leur système de règles, de doctrines et de rites, les chefs religieux lient des charges sur les épaules des gens, des charges que les chefs religieux ne peuvent pas, en réalité, remuer eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas dans la situation des autres gens, des personnes qu'ils chargent ainsi. Et donc il y a un vice fondamental dans ce truc, un vice dans l'idée même de fixer comment être fidèle à Dieu pour d'autres que soi-même. Jésus propose une autre façon de rechercher ce qu'il est juste de penser et de faire devant Dieu. Mais avant d'expliquer ce qu'il propose, il explique pourquoi les chefs religieux se prennent ainsi au jeu de vouloir des règles pour tous. Ils aiment la première place, ils aiment dire aux autres ce qu'ils pensent et ils adoreraient être suivis parce qu'ils sont sûrs d'avoir raison. C'est tellement humain. Parce qu'en étant humain, nous sommes aussi un animal du même sang que les autres animaux qui vivent en société. Et comme eux, nous avons dans les gènes l'envie d'être le chef de la meute. Mais bon, nous ne sommes pas seulement un animal, nous pourrions espérer nous élever un peu au-dessus de cette façon d'être de temps en temps. En tout cas, Dieu a cette ambition pour nous. Alors il serait facile de ricaner grâce à cette page de l'Évangile sur nos hommes et nos femmes politiques, sur les publicitaires qui nous disent ce qu'on doit désirer, ce qu'on doit penser. Il serait facile de dénoncer des églises chrétiennes ou des religions dont les fidèles sont sans cesse menacés des peines éternelles, eux aussi, s'ils ne croient pas ceci, s'ils ne sont pas baptisés ou circoncis comme cela, s'ils n'épousent pas un conjoint qui est de la bonne religion, du bon sexe. Si je me laissais aller, j'aurais envie aussi de faire un parallèle entre ces pharisiens assis sur la chaire de Moïse et le Conseil national de la Fédération protestante qui, cette semaine encore, une fois de plus, ose prendre parti dans un débat de société au mépris d'une grande proportion des protestants qui pensent différemment. Bien sûr, nous sommes divers. Mais Jésus nous invite, plutôt que de ricaner sur les problèmes des autres, à une autre démarche, finalement. Plutôt que de dénoncer la paille qui est dans l'œil du voisin, après avoir dénoncé les travers des autorités religieuses croyant bien faire en pensant à la place de leurs fidèles, à la place des individus, après avoir dénoncé ces chefs qui disent, se font appeler rabbi, rabbi, Jésus nous dit, ben justement, après avoir bien remarqué ça, vous ne vous faites pas appeler rabbi. Et ça, je crois que c'est génial. Il est important, oui, de démasquer l'imposture des autres, de ceux qui tentent de nous empêcher de penser pour que leur propre idée prévale. Mais cela nous permet quand même d'écouter ce qu'ils ont à dire, sans se faire avoir. Mais quand même, ils ont quelque chose à dire. Nous pouvons l'écouter avec respect. Mais c'est surtout une bonne occasion d'en tirer une leçon pour notre propre fonctionnement et de voir dans ce qui nous paraît évident dans l'œil de l'autre, d'y voir un miroir de nos propres troubles. Parce que pour nous aussi, nous avons envie d'imposer notre point de vue aux autres. Nous aussi, nous avons la menace habile. Nous aussi, nous sommes parfois prêts à dégainer, plus ou moins consciemment, plus ou moins explicitement, une sorte de chantage pour imposer notre volonté aux autres. Mais le changement de perspective que nous propose Jésus est plus essentiel encore, je crois. Ne vous faites pas appeler rabbi, vous, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères et sœurs. Un seul est votre maître. Alors qui est ce un seul ? Ben évidemment, c'est Dieu qui porte ce nom de « un seul » dans la loi de Moïse. Par exemple, dans ce commandement central, « Écoute l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un seul ». Alors ce petit mot « un seul », « eis » en grec, est donc un des noms de Dieu. Un nom qui enseigne que Dieu est seul en son genre, mais aussi que c'est le même Dieu qui nous dit ce qui est bon, et le Dieu qui nous pardonne même quand nous sommes mauvais. Que c'est un seul et même Dieu qui est source de vie pour l'univers immense et qui se tient auprès de la fourmi que nous sommes, oui, comme si nous étions son fils unique, sa fille unique, pour nous accompagner, nous guider, nous soigner, nous ressusciter. Et nous sommes tous frères, nous dit Jésus. Il n'y a pas une caste de seigneurs qui déciderait ce que les manants doivent penser et faire. Alors ne nous laissons pas avoir, ni par ceux qui veulent nous imposer leur point de vue, ni par notre soif instinctive d'imposer notre point de vue aux autres. Bon, c'est évident. Alors cela ne nous empêche pas d'écouter les scribes et les pharisiens, nous dit Jésus. Ils sont assis sur la chaire de Moïse, ils cherchent à tirer une parole de Dieu par l'interprétation de la Bible et même par une pluralité d'interprétations, c'est très bien. Mais pour Jésus, la source de la révélation n'est pas éteinte, elle n'est pas enclose dans la Bible. Alors méfions-nous des pharisiens qui veulent nous empêcher d'écouter et de penser par nous-mêmes, oui. Mais Jésus nous dit que le plus terrible des pharisiens, des empêcheurs d'écouter par soi-même, c'est ce pharisien qui est en nous et qui nous auto-censure finalement. Cramponnés que nous sommes à ce que nous avons toujours pensé, comme un enfant se cramponne à son doudou. Ce pharisien, c'est nous-mêmes qui sommes trop paresseux pour se poser des questions. C'est ce nous-mêmes qui est culpabilisé à l'idée même de douter de ce qu'on nous a toujours dit que nous devrions penser et faire. Alors que le Christ a définitivement tordu le cou, normalement, à la moindre crainte de Dieu. Allez donc, vous tous, nouveaux Moïse et Moïsette, montez donc sur la montagne et recevez la révélation directement de la bouche d'un seul. Mais allez-vous me dire, nous allons tous redescendre chacun de notre petite montagne avec un sac plein de toutes sortes d'idées nouvelles, à ajouter déjà à ce que nous avons entendu par ces grands esprits assis sur la chaire de Moïse, plein de paroles, de la Bible, de sagesses anciennes, de doctrines très finement ciselées. Alors comment faire la synthèse ? Comment me décider, moi, tout petit, qui n'ai encore jamais vécu la journée que j'ai à vivre et qui s'ouvre aujourd'hui ? Journée qui est pleine d'inconnus. C'est pourquoi Jésus ajoute deux écoutes encore à cette première écoute. Pour recevoir deux paroles que l'on ne peut ce coup-là trouver ni dans les écrits avec de l'encre sur du papier, ni qu'aucun scribe, rabbin, pasteur, théologien, prêtre, aussi savant soit-il, pourra nous apprendre. Un seul est enseignant, nous dit Jésus. Et il ajoute, un seul est votre Père et il est dans les cieux. Et cela fait référence à une autre sorte de parole venant de Dieu. Par la première, nous avons un enseignement, quelque chose qui donne du sens, une valuation. Par la seconde, Dieu fait de nous son enfant. C'est qu'il y a deux mots différents en hébreu pour dire la parole. Les tables de Moïse s'appellent les dix paroles. Et la parole, alors, c'est dabar en hébreu. Et quand Dieu crée le monde dans le premier chapitre de la Genèse, c'est avec dix paroles. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la parole, alors, c'est amar. La Bible a quelque chose à nous apporter sur le dabar de Dieu, sur son point de vue, sur ce qui est juste et bon en le monde. Les théologiens peuvent parfois nous aider à nous y retrouver, finalement, dans cette Bible. Et Jésus nous dit que Dieu nous enseigne ce dabar directement, dans la prière, dans la méditation, dans la réflexion, dans l'intelligence. Mais il y a cette autre sorte de parole qui se dit amar, une parole créatrice, et celle-là, aucune église, aucune commission, aucun rite n'en est maître, mais Dieu seul. Et cette parole, c'est à chacun de la recevoir pour lui-même. Alors quand le dabar nous dit que vivre, c'est aimer, par exemple, la seconde parole nous donne un cœur de chair qui est capable d'aimer. Le dabar nous dit que Dieu existe, que Dieu est. Le amar nous le fait espérer, nous le fait aimer, nous le fait goûter. Mais si chacun écoute et pense dans son coin, s'il y a une myriade de petits Moïse, de fils et de filles de Dieu, est-ce que ce ne sera pas le véritable chaos dans l'Église et dans le monde ? Ne faut-il pas un chef, une commission qui puisse décider ce que tout le monde va penser et faire, qu'il y ait une unité dans l'Église, une unité dans les familles, dans les peuples ? Jésus répond à cette interrogation, « Un seul est votre chef, le Christ. » Alors faisons-lui confiance. Et Jésus ose cette comparaison. Dieu est comme une poule, j'aurais pas osé, une poule unique qui vient en Christ rassembler tous ses poussins sous son aile. Alors pour les auditeurs de Jésus, le Christ était à espérer comme un salut de Dieu, comme un salut qui vient bientôt et que nous devons chercher. Que nous soyons ou non persuadés que Jésus est le Christ, peu importe finalement, nous est-il dit ici, l'essentiel est de lui faire place dans notre existence en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit ce quelque chose que j'accepte précisément d'avoir encore à découvrir, pas comme quelque chose que je possède et qui est bien codifié. Quelque chose de neuf venant de Dieu. » C'est une simple question de bonne volonté, finalement, d'ouverture à cette chaleur, à cet amour. Et cette confiance que nous pouvons chacun écouter et penser par nous-mêmes et être tous ensemble unis parce que Dieu, lui, est un, est le seul. Alors que vient faire ici la terrible diatribe sur les scribes et les pharisiens hypocrites ? Ils font... Et nous faisons bien évidemment partie des poussins chéris du Christ maman poule. Ces malheurs à vous ne sont pas des malédictions, mais ce sont des lamentations, des « hélas, mes pauvres ». Et puisqu'il y en a 7 ou 8, selon les versions du texte grec, cette tirade a la forme d'une bénédiction, en réalité. D'ailleurs, comme les béatitudes qui sont au début de l'Évangile, l'un comme l'autre, finalement, annonçant une juste façon d'être et annonçant le salut qui vient de Dieu. Ce n'est donc pas pour condamner que Jésus parle ainsi avec ses malheurs à vous, hypocrites. Ce n'est pas pour condamner que Jésus parle ainsi, mais il parle à la façon des prophètes pour nous ouvrir les yeux, pour aider précisément le roseau cassé à pousser et le lumignon qui fume à pouvoir vraiment éclairer et briller. Jésus dénonce une hypocrisie et ça peut nous aider vraiment à recevoir la parole. Cette comédie que nous jouons dans notre vie, ce n'est en fait que le symptôme d'un mal plus profond, qui est une folie et un aveuglement. Et ce mal, c'est qu'en fait quelque chose de tout simple. C'est d'être tellement obnubilé par l'accessoire, par les détails, que l'on en devient aveugle à l'essentiel. Alors c'est valable pour notre vie de tous les jours, dans notre relation aux autres et dans notre foi. Le problème, c'est de tellement tenir à nos doctrines sur Dieu que nous en oublions d'aimer Dieu et de nous laisser surprendre par lui. Notre folie, c'est de tellement vouloir l'unité visible que nous négligeons que Dieu seul peut nous unir dans le respect de la singularité de chacun, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Le problème, c'est de faire tellement attention à des broutilles dans notre vie que nous en oublions la justice et la miséricorde et la fidélité, nous dit Jésus. Alors c'est comme de faire tellement attention à la couleur de sa cravate qu'on en oublie de mettre son pantalon. Le diable, c'est d'être obnubilé par ce qui est accessoire. Alors qui nous en délivrera ? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et qui est déjà là pour nous. Amen. Merci Aurélien. Donc je vous propose de chanter le cantique 172 dans le petit recueil. 172, célébrons l'Éternel, notre Dieu, notre seul Père. pouvez prendre place. Alors, quelques annonces pour ce dimanche. Comme tous les derniers dimanches du mois, nous avons la chance d'avoir un moment convivial qui nous a été préparé par des personnes généreuses, donc dans la grande sacristie, derrière la porte et derrière ce beau verset, qui tout est prêt pour nous accueillir. Pendant ce moment convivial, il y aura un temps de remerciement pour Jean-Claude et Christian Hureau qui sont restés au comptoir de librairie depuis 20, 25 ans. Et donc c'est un moment peut-être où nous pouvons, donc dans ce culte, pouvoir avoir un temps de remerciement. Alors la librairie fermera donc assez vite à la sortie pour que les personnes qui sont à la librairie puissent les rejoindre. Mardi 28 janvier, ce mardi, donc, il y a une conférence débat sur le transhumanisme avec le pasteur Vincent Hubac de la paroisse du Foyer de l'âme. Transhumanisme, alors on ne sait pas forcément ce que c'est l'idée qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, des biotechnologies, l'homme de demain serait un peu un homme augmenté, comme dans les films de science-fiction, mais voilà, dans le présent, tout près, tout proche de nous, dans le futur. Alors vers quoi est-ce que ça pourrait mener? Qu'y a-t-il à espérer et redouter de ces développements? Mercredi matin, il y a le groupe de peinture qui est organisé par le groupe protestant des artistes, comme tous les mercredis matins. Jeudi, il y a la répétition du chœur de l'oratoire. Vous pouvez le rejoindre si vous le désirez. Effectivement, il cherche en particulier des voix de ténor et de basse. Et puis, dimanche prochain, il y a donc le culte ici, présidé par mon cher collègue James Woody, et il y a un repas de paroisse, donc vous pouvez déjà vous inscrire donc pour ce repas, si vous avez l'intention de participer. Ce n'est pas obligatoire de s'inscrire pour participer, mais ça aide l'équipe d'organisation de sentir ainsi un peu combien il y aura de gens à ce repas. Vous pouvez aussi vous inscrire pour le cycle d'initiation à la théologie. Donc nous en faisons deux, James et moi-même, deux par an. Donc celui du premier semestre va commencer au mois de mars, mais vous pouvez déjà vous inscrire. Il suffit d'envoyer un mail pour que nous puissions vous envoyer les documents avant chaque séance. Maintenant, c'est le moment de l'offrande, et donc nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est un geste de louange et puis de participation à l'annonce de l'Évangile faite par l'Église. Nous prions Dieu en suivant du cœur ce psaume. Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice et qu'ils fassent droit enfin aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice. Que tes enfants fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'ils sauvent les pauvres gens, qu'ils chassent le malheur. En ces jours-là, fleurira la justice et y aura une grande paix jusqu'à la fin des siècles. Par eux, Dieu délivrera le pauvre qui appelle le malheureux sans secours. Oui, ils auront alors du souci pour le faible et pour le pauvre dont ils sauvent la vie. Ils les racheteront à l'oppression, à la violence, car leur sang est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit comme un champ de blé, que ses épis ondulent comme la forêt du Liban, que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre, que le nom de ton Messie dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays se réjouissent de la bonne nouvelle. Oui, béni soit l'Éternel notre Dieu, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, que la terre tout entière soit remplie de sa gloire. Béni soit notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et chacune et chacun, nous pouvons vraiment recevoir cette bénédiction que Dieu nous donne. Que l'Éternel te bénisse et te garde, toi. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Oui, demeure par ta grâce avec nous tous. Dieu, notre Sauveur.